Aujourd'hui, donc, c'est la 9e leçon sur 10. Il n'y en a plus qu'une après. Et je me propose aujourd'hui, dans cette 9e leçon, de parler de l'usage malveillant et mensonger du savoir. Donc voilà, nous avons étudié le savoir quotidien et puis les sciences avec les trois grandes sciences. La philosophie, ce qu'est la philosophie, ce n'est pas une science, c'est vraiment une prise de position personnelle par rapport à l'ensemble du monde, hein, notamment du savoir, mais aussi de la morale, etc. Enfin, et puis le savoir impliqué dans la foi, la connaissance impliquée dans la foi. C'est par rapport donc à ces différentes instances du savoir qu'ensuite j'ai examiné, par exemple, l'intelligence artificielle, les neurosciences, et voilà maintenant que nous avons l'évolutionnisme, et maintenant l'usage malveillant et mensonger du savoir. Avec la question, est-ce que la science procure un progrès à l'humanité ? Est-ce que ce progrès est un progrès moral ? Et en même temps, les implications avec la philosophie politique, parce que la morale, c'est bien sûr la morale individuelle. Chacun est invité dans sa conscience à être moral, bon, d'accord. Mais c'est aussi une morale collective. C'est aussi une manière d'agir ensemble, collectivement. Et ça, c'est surtout la politique qui essaie de s'emparer de la direction des communautés pour savoir ce qu'elles vont faire, dans quel sens elles vont aller, quels buts elles vont se donner, quels moyens elles vont se donner. Et c'est justement à l'intérieur, je crois, de la question de la philosophie politique qu'on peut interroger les fake news. Les fake news, je pense, hein, j'ai annoncé ça depuis longtemps, j'en ai déjà un peu parlé, les fake news, c'est au fond une manipulation, un énoncé de la vérité ou plus ou moins de la vérité dans un but finalement politique. Voilà, alors je vais prendre comme exemple d'un usage, disons, malveillant du savoir, eh bien la course à la bombe atomique de 1933 à 1945. Après cet exemple que je vais développer assez bien, je ferai quelques réflexions et puis je prendrai la triple historicité de Fessard et de Ricoeur et puis finalement une réflexion sur la science et le progrès moral de l'humanité. Dans le prochain cours, nous prendrons davantage l'aspect de la philosophie politique avec Hannah Arendt entre autres et puis avec les deux philosophes cyniques que je vous ai annoncés, donc Harari et Sloterdijk. Alors, je suis tombé par hasard sur ce livre de Cédric Villani. Je ne sais pas si vous connaissez Cédric Villani, c'est un grand mathématicien français qui pour l'instant d'ailleurs, eh bien, il a reçu des prix de mathématiques, etc. Eh bien, il se présente comme maire de Paris. Donc on voit que eh bien, les scientifiques, eh bien, instamment, eh bien, ils trouvent que leur science, c'est bien, mais que peut-être on pourrait faire de la politique. Pourquoi ? Alors, Les rêveurs lunaires, c'est le titre de ce livre, en fait c'est une bande dessinée, mais très érudite, hein, sur quatre génies qui ont changé l'histoire. Et ces quatre génies sont, eh bien, entre autres ceux dont je vais vous parler ici, hein, c'est Heisenberg, Alan Turing, Leo Szilard, et Hugues Plaudink. Voilà. Donc, la course à la bombe atomique. L'histoire commence déjà en 1896, lorsque Henri Becquerel, un physicien français, c'est une génération de physiciens, son père et son grand-père sont déjà des physiciens reconnus. Il découvre la radioactivité de certains éléments lourds, comme l'uranium par exemple, certains éléments lourds, donc avec une masse atomique, un numéro atomique assez élevé, qui se trouvent en fait dans une situation instable. Ces atomes sont lourds et, disons, les tenir ensemble, eh bien c'est assez difficile, ils sont instables, ils ont tendance parfois à se désagrégé, à se transformer en émettant certaines particules, des rayons gamma, des électrons, etc. Enfin, peu importe. Donc, ces éléments sont instables. Ils ne sont pas bien, je dirais, ficelés. Hein? Et donc, on peut éventuellement, eh bien, un peu les casser, un peu les enrichir ou les désenrichir, hein, en prenant des électrons, etc., à ces particules. Donc voilà, une radioactivité naturelle. Ça se trouve à l'état naturel. Dans certaines mines, eh bien, il y a de l'uranium normal, si j'ose dire, hein, puis il y a quelques particules, quelques atomes d'uranium un peu différents, hein, qui sont dans un état instable et qui peuvent se transformer. Alors cette radioactivité naturelle, évidemment, a intéressé les physiciens. Donc ça veut dire que les éléments ne sont pas tous fixes tels qu'ils sont là. Hein. Ils peuvent, même par eux-mêmes, eh bien, se désagréger, se décomposer en des éléments plus simples. Très intéressant. Alors je note que en 1913, Wells, c'est un romancier en fait, hein, un romancier de science-fiction, un des premiers qui a commencé à faire de la science-fiction, avait imaginé que cette radioactivité naturelle, qui avait certaines propriétés, je dirais, de production d'énergie, hein, eh bien, aurait pu devenir artificielle. On aurait pu faire en sorte que des atomes soient radioactifs et les activer, en forçant l'introduction de protons ou de neutrons dans les atomes. Est-ce qu'on ne arriverait pas à les rendre instables et même à les casser et ainsi à dégager une certaine énergie? L'idée donc qu'il y a de la matière qui pourrait éventuellement fournir de l'énergie lorsque on les travaille, on les bombarde, on les heurte, on les casse. Voilà, ça c'est une idée de Wells. Et alors, très curieusement, eh bien, 20 ans après, Joliot et Curie vont découvrir justement la radioactivité artificielle. Frédéric Joliot et son épouse Irène Curie, la fille de Pierre Curie et de Marie Skłodowska, hein, polonaise, eh bien, ils vont découvrir, ils vont d'ailleurs recevoir le prix Nobel pour cela, ils vont redécouvrir la radioactivité artificielle, comment on fait pour, hein, que les particules qui sont peut-être un peu radioactives, mais ne le deviennent vraiment, hein, produisent donc leur énergie, etc. Alors évidemment, avec cette découverte, c'est 1933. Ils recevront le prix Nobel en 1935. En 1933, c'est aussi une date dans l'histoire de l'humanité. Évidemment, c'est l'accession de Hitler au pouvoir. C'est le nazisme qui s'installe en Allemagne avec toute une série de projets politiques. Projets politiques au niveau de l'Europe. Projets, bon, justement, qui peuvent faire peur aux uns et aux autres, mais qui, en tout cas, semblent mobiliser la nation allemande. Projet politique de l'Allemagne qui notamment, eh bien, est antisémite, anti-juif. Donc il y avait en Allemagne beaucoup de juifs, beaucoup d'intellectuels juifs même. Et parmi ces intellectuels, eh bien, il y en a quelques-uns qui se disent « le vent est occupé à tourner, il faut s'enfuir ». Einstein, notamment, en 1933, lui-même avait évidemment reçu un prix Nobel, hein. Eh bien, il quitte Berlin. En passant d'ailleurs par la Suisse, où il va rendre visite à son fils Édouard, qui est dans un asile psychiatrique, hein, schizophrène, à Burghölzli. Pour 1933, il part et il va à New York, à Princeton, et bon, il travaille là à l'université. Léo Szilárd, c'est un des quatre dont on parle Villani ici, Léo Szilárd est un juif hongrois, également physicien, mais il touche à tout vraiment. C'est pas du tout un homme figé dans sa discipline, hein, mais il connaît très très bien tout ça. Il quitte Berlin également, il a le pressentiment que ça va tourner mal, et il quitte Berlin. Mais lui, il sera toujours un pigeon voyageur, il ira à gauche, à droite, il essaiera de rassembler des physiciens, de rassembler de l'argent, de parler aux politiques, enfin c'est un homme assez impressionnant. Hein. Si vous lisez ce livre ben, ou d'autres livres sur lui, vous verrez que c'est un bonhomme impressionnant. En fait, 1933, donc, les physiciens continuent à travailler. En 1938, Rutherford, qui bien sûr est au courant de cette question de la radioactivité, etc., qui est lui le fondateur de la physique nucléaire, en fait, hein, c'est un Britannique, il pense que l'énergie dégagée par ces fissions d'atomes, etc., sera minuscule. Parce que certains disent que c'est une énergie immense, qu'on va pouvoir l'utiliser pour faire ceci, cela. On ne pense pas encore tout de suite à la bombe, enfin, on pense à la possibilité de capter cette énergie. Mais Rutherford lui-même, qui est au fond, hein, celui qui a découvert des tas de choses au niveau de la physique nucléaire, dit « oui, d'accord, mais enfin, cette énergie dégagée sera extrêmement faible. » 1938, les accords de Munich, donc l'Allemagne, la France, l'Angleterre, etc., sont occupés à discuter avec Hitler, et suite à ces accords de Munich où les Français, les Anglais ont peur de s'opposer trop pour ne pas provoquer une guerre, eh bien, Hitler fait... annexe les Sudètes, qui sont donc une région de la Tchécoslovaquie où il y avait beaucoup de germanophones, hein, mais où il y avait aussi des mines d'uranium. Hein, on va en parler plus tard. D'autres mines d'uranium se trouvaient où ? Au Congo belge. Hein, au Congo belge. Donc là, il y a des enjeux aussi, hein, tout à coup, qui se mettent en route. 1938, donc, la guerre devient de plus en plus menaçante. En 1938, Otto Hahn, qui est un physicien allemand, qui travaille en Allemagne, découvre la fission de l'uranium. Il voit comment ça peut se faire. L'uranium, qui est donc cet élément lourd, hein, que l'on parvient à fendre, à casser, surtout s'il est déjà lui-même un peu enrichi, comme on dit. Mais enrichi, ça veut parfois dire appauvri. On a déjà retiré l'un ou l'autre élément pour le rendre encore plus instable. Alors on peut trouver ces éléments encore plus instables au niveau naturel, mais on peut peut-être fabriquer des éléments, les faire devenir encore plus instables jusqu'à ce qu'on provoque la fission. Donc Otto Hahn découvre cela. Entre-temps, Bohr, qui est... Danois, qui est d'ailleurs le maître de Heisenberg, part à Princeton aux États-Unis et il va trahir, si on veut, eh bien, les découvertes de Hahn. Princeton, où se trouve Einstein. Mais Einstein n'a aucune idée de la question de faire une bombe avec tout ça. Il va le dire plus tard, justement, à Szilard. Hein. Parce qu'au fond, on n'avait pas encore. L'idée, quelle était l'idée principale qui va faire basculer les choses, c'est l'intuition de la réaction en chaîne. C'est ça qui va faire basculer la chose. Parce que si on bombarde un élément et qu'il y a un peu d'énergie qui se dégage, bon, voilà, il y a un peu d'énergie qui se dégage. Mais s'il y a une réaction en chaîne qui se dégage, alors là, il peut y avoir un très grand potentiel d'énergie qui va en découler. En 1939, et là c'est une question aussi qu'on peut se poser, en 1939, Joliot, qui continue à faire ses travaux, hein, eh bien, publie le résultat de ses travaux. Il continue à travailler, donc puisqu'il a découvert la radioactivité artificielle, il continue à publier ses travaux, parce que la communauté scientifique, hein, eh bien... est appuyé sur cette règle que le savoir, c'est le savoir est neutre, hein, la communauté scientifique est une communauté apolitique, une communauté clean, etc. Et il est normal que celui qui découvre quelque chose le partage aux autres et que les autres puissent ainsi continuer dans la même ligne avec les meilleures idées possibles. Joliot publie ses résultats. Szilard, précisément le Hongrois là en question, qui est occupé à se promener des États-Unis dans le continent, etc., trouve que c'est une grande naïveté, hein, une grande naïveté de la part de Joliot, le français, d'avoir publié ses résultats. Et d'ailleurs, immédiatement après, Otto Hahn et d'autres qui sont engagés dans un projet justement de fission de l'uranium, etc., pour dégager de l'énergie en vue de faire une bombe, l'Allemagne commence tout de suite à travailler sur la fission et sur la bombe. Mais comme je vous ai dit, hein, la question est celle-ci. Si on peut faire se dégager de l'énergie ici, de l'énergie là, et qu'on doit chaque fois bombarder ici et là, bon, on a un petit peu d'énergie ici, qu'est-ce que ça va donner? Ben, sans doute pas grand-chose. Hein. C'est ce que disait Rutherford. Mais Szilárd a, on ne sait pas très bien en quelle année, mais sans doute vers ces mêmes années, 1939, l'intuition de la réaction en chaîne. Alors ça veut dire quoi, ça, l'intuition de la réaction en chaîne? Ça veut dire que si on rassemble de l'uranium, parce qu'on travaille toujours sur l'idée de l'uranium, mais on le rassemble dans une masse critique, spécifique, donc avec une densité d'atomes d'uranium bien précis dans une masse. Une masse critique qui signifie aussi une distance critique entre les atomes. Si on évalue bien cette masse critique et cette distance critique, eh bien on peut avoir quelque chose comme ceci, comme si on jouait au billard. Eh bien, on envoie une énergie ici, qui dégage de l'énergie ici, et cette même énergie fend les autres atomes, qui fend ceci, etc., en chaîne. Mais si on n'a pas cette masse critique, donc si par exemple ceci n'existe pas ou ceci n'existe pas, bon, l'énergie va se perdre ailleurs, se disperse si on veut. Mais si chaque énergie dégagée de la première fission engendre le double de l'énergie, puis le double, puis le double, puis le double, à une vitesse extrême, ça c'est la réaction en chaîne. C'est comme si, pour prendre une image, vous aviez une table de billard, et vous avez des boules, vous avez trois boules dispersées, vous tapez une boule dans n'importe quel sens, quelle chance est-ce qu'elle a de toucher les trois autres boules? Assez peu. Mais si vous avez tout disposé de telle manière que, parfois on met les boules dans un triangle comme ça, on touche une boule, elle se disperse toute. Eh bien, c'est un peu ça l'idée de la masse critique et de la distance critique. Szilárd, paraît-il, a un feu rouge. Il était à un feu rouge aux États-Unis, à New York, je ne sais pas quoi. Il regardait la boule rouge. Puis il voyait tous les gens qui étaient là, qui attendaient que le feu passe au vert pour pouvoir partir. Il s'est imaginé cette histoire de distance critique et de masse critique. Et ça a été, semble-t-il, vraiment le déclencheur de la recherche. Il veut faire une expérience pour voir si ça va marcher, et il fait une expérience avec un certain Zinn. Alors pourquoi fait-il l'expérience avec lui? Parce que le meilleur expérimentateur était Fermi, un Italien. Qu'est-ce que Fermi faisait aux États-Unis? Fermi n'est pas juif, sa femme était juive. Donc lui aussi avait quitté l'Italie pour les mêmes raisons. Sa femme étant juive, lui il était aux États-Unis. Le meilleur physicien s'est Fermi. On essaie de le convaincre, mais Fermi ne s'occupe pas des problèmes politiques. Lui, il fait de la recherche fondamentale, ça n'intéresse pas, la bombe, il n'est pas là pour faire une bombe, etc. Bon. Donc Szilárd fait une première expérience avec Zinn. Et donc cette première expérience est la preuve que la bombe est possible. Il en parle avec Einstein qui dit « Je n'y avais jamais pensé ». Einstein qui est quand même un peu le spécialiste de ce genre de choses, il n'avait jamais pensé à cette histoire de masse critique et de distance critique. Et d'utilisation donc de l'énergie, oui, mais de cette réaction en chaîne où il suffit de toucher finalement un atome pour que tous soient atteints. Alors il faut évidemment avoir... je ne sais pas moi, 100 grammes ou une tonne d'uranium enrichi, etc. Bon, et puis alors, il faut percuter le premier, puis on voit ce que ça donne. Combien est-ce qu'il en faut? 100 grammes, une tonne, combien est-ce qu'il y avait dans l'avion? Ah ben ça, c'est une question qu'on se pose. Combien est-ce qu'il faut de poids? Le poids d'uranium enrichi pour provoquer une bombe suffisamment puissante pour obtenir l'effet voulu. Question, les physiciens s'interrogent. Einstein écrit à Roosevelt pour dire qu'on a là quelque chose de très grave, hein. Mais Roosevelt dit, ce juif à tendance communiste, qu'est-ce qu'il raconte? Oui, il a écrit Carnet carré, mais enfin, à part ça, qu'est-ce qu'il en sait de la politique, etc. Et d'ailleurs, les Allemands, de leur côté, étaient très embêtés que ce soit quand même un juif qui avait lancé toute la recherche, hein. Cette formule juive, E égale MC carré, donc les Allemands d'ailleurs aussi avaient éliminé systématiquement toute une série de physiciens juifs, hein. Et même parmi les Allemands, il y en avait qu'on considérait comme pas très sûrs, on avait quand même mis certains quand même en difficulté, il n'y avait pas de finances, il n'y avait pas de etc. Parmi les physiciens allemands, ils étaient partagés. Certains étaient franchement nazis, bien sûr, celui qui était à la tête du projet qui s'appelait Gerlach. Mais d'autres étaient contre les nazis. Hein. Heisenberg était contre-chutant. Hein. Il avait collaboré, mais pas trop, et puis il ne savait pas quoi. Enfin, c'était le principe d'incertitude, hein, vous le connaissez. Donc Heisenberg hésitait, on ne sait pas s'il était pro ou contre. Certains avaient dit clairement qu'ils étaient contre. Ceux qui avaient dit clairement qu'ils étaient pour, ben, avançaient dans leur carrière, hein, ou bien étaient gradés SS chaque année un peu plus, comme von Braun, par exemple. Hein. Mais Roosevelt n'a pas beaucoup réagi, et il y avait de grosses difficultés avec les militaires, avec les politiciens, dans cette guerre qui s'engageait. Et Szilard, finalement... Fermi fait finalement une expérience quand même, parce qu'il est intéressé par ce qu'il a réussi avec Zinn. Il fait une expérience et il est clair que la bombe est possible. Comment est-ce qu'il a fait cette expérience? Eh bien, il a entassé, de l'uranium en mettant des barres de cadmium qui peuvent absorber, hein, l'énergie qui va se dégager, de manière à ce que ça n'explose pas tout seul, évidemment. Hein. Donc il y a une certaine densité, et en même temps on peut mesurer cette densité, on peut mesurer cette masse critique en ajoutant ou en retirant quelque chose. Et puis, à ce moment, il retire une partie, la réaction s'enchaîne, s'enclenche, s'enchaîne, puis il remet la barre pour l'absorber, et donc on a fait la preuve que la réaction en chaîne est possible avec l'uranium, qu'elle dégage toute cette énergie, etc. Et alors Fermi dit, ben voilà, moi j'ai fait un grand exploit scientifique, je vais publier. Alors Szilard lui dit non, absolument pas. Il empêche Fermi de publier les résultats de l'expérience qui avait été suggérée par Szilard. Hein. C'est en 1940. En 1940, la bombe atomique, ce sera en 1945. Hein. En 1941, l'Allemagne réalise les premières multiplications neutronales au principe de la bombe. Mais en même temps, les nazis éliminent les physiciens juifs qui n'ont pas fui, et même, comme je vous disais, d'autres qui ne veulent pas collaborer, etc., sont mis en difficulté. Certains aussi étrangers sont mis en difficulté. Voilà. Alors, ce qui se passe donc, pendant ce temps, c'est que les physiciens qui sont aux États-Unis, hein, qui sont presque tous des étrangers, il y a des Hongrois, il y a Oppenheimer qui est le fils d'Allemand, hein, mais qui est aux États-Unis, il est là-bas. Il y a 4 ou 5 Hongrois, il y a des Allemands, il y a des Français, des Italiens, etc. C'est presque tous des étrangers, hein, qui travaillent à cette bombe, mais avec des difficultés, ils n'ont pas beaucoup de finances, etc. Les politiciens ne se rendent pas bien compte, hein, de ce que ça veut dire. Mais on leur dit que l'Allemagne travaille aussi à cette bombe et qu'il faut aller vite. Bien, toujours est-il que les Allemands n'avancent pas, tandis que les Américains avancent. Le 8 mai, l'Allemagne capitule. Le 2 mai, von Braun s'est rendu aux Américains, parce que les Russes avançaient, ils préféraient se rendre aux Américains qu'aux Russes ou qu'aux Français. Il s'est dit qu'il y aurait sans doute plus de finance là-bas pour continuer ses expériences. Hein. Le 8 mai, l'Allemagne capitule. Le Japon est toujours en guerre. En juillet, les Américains font une expérience vraiment de bombe atomique à Los Alamos, dans le Nouveau-Mexique. Et le 6 août, une bombe à Hiroshima. Et le 9 août, une autre bombe à Nagasaki. Alors la première bombe à Hiroshima est une bombe faite avec de l'uranium. De l'uranium. Mais justement, cet uranium est très rare. Il est très difficile à travailler. Il y en a, comme je vous ai dit, au Congo belge, donc tout de suite, on s'est intéressé au Congo belge. Il y en a en Tchécoslovaquie, mais elle a été annexée. Donc on a quand même trouvé ce qu'il fallait pour faire la bombe d'Hiroshima. Mais la bombe de Nagasaki n'est pas faite avec de l'uranium. Elle est faite avec du plutonium, c'est-à-dire un autre élément encore plus lourd, mais beaucoup moins rare. Donc voilà, la recherche s'est faite sur deux fronts. On a fait une bombe avec de l'uranium, ça a été très difficile à faire. Avec le plutonium, c'est selon le même principe, avec une autre base. Et on est arrivé à faire la bombe de Nagasaki. Donc les deux bombes sont tombées le 6 août et le 9 août sur le Japon. Ce qui a mis fin à la guerre avec le Japon. Voilà, je vous ai raconté un peu tout cela. Et maintenant, je vous parle de l'opération Epsilon, que vous connaissez peut-être. L'opération Epsilon, qu'est-ce que c'est? Eh bien, comme la fin de la guerre, enfin, on espérait que la fin de la guerre était occupée à se profiler, les Alliés ont capturé, enlevé 10 physiciens allemands qui étaient occupés à travailler à toutes sortes de projets. Ils les ont enlevés, ça a pris 2 ou 3 mois, je crois. Ils ont réussi à capturer, à enlever tout le monde. Et ils se sont retrouvés tous, eh bien, dans un manoir qui s'appelle Farm Hall. 10 détenus allemands sont là. Et ils sont là le 6 août. Ils écoutent la radio et ils apprennent que les Américains ont lancé une bombe atomique sur Hiroshima. Donc c'était tous des scientifiques qui travaillaient eux-mêmes à une bombe atomique. Alors parmi ces 10, eh bien, il y avait justement Werner Heisenberg, hein, qui n'était pas le chef du projet, c'était Gerlach, mais qui était quand même le créateur de la mécanique quantique, et qui avait lui-même, 2 ans auparavant, expliqué à tout cet aréopage de physiciens que la bombe atomique ne pourrait pas être faite parce qu'il fallait quelle quantité d'uranium selon lui? Eh bien, il fallait une tonne d'uranium enrichi, et on pouvait en fabriquer 1 gramme par mois ou je ne sais pas quoi. Et donc il avait fait le calcul qu'il faudrait 30 ans hein, pour avoir le matériel suffisant pour faire la bombe atomique. Mais comme je vous ai dit la fois passée, il s'était trompé d'un facteur 10. Il s'était trompé d'un facteur 10, évidemment. Il était avec des 10 exposant moins 24, des 10 exposant plus je ne sais pas quoi. Donc c'était très compliqué. Il n'avait pas vraiment maîtrisé la question de cette réaction en chaîne, des masses critiques et des distances critiques. Il s'était trompé d'un facteur 10. Et donc quand il a appris que la bombe avait été fabriquée, il s'est dit comment les Américains ont-ils fait 800 hein, kilos d'uranium enrichi? C'est pas possible. Hein? Alors, les Américains s'étaient vantés d'avoir mis 125 000 hommes sur le projet. Ils disaient, ben, il fallait 100 000 prix Nobel pour travailler jour et nuit pendant 30 ans pour faire une tonne. Comment est-ce que ont-ils fait? Alors, il a repris ses calculs et il s'est rendu compte qu'il s'était trompé d'un facteur 10. Et donc, est-ce que c'était son inconscient qui parlait ou pas, j'en sais rien. Hein, mais il était à un doigt de trouver lui aussi la chose. Et à cause de ce facteur 10, eh bien, voilà, c'était pas, lui avait considéré que ce n'était pas possible. Et donc le projet patinait, il patinait. Et quand il a refait ses calculs, bon, il s'en est rendu compte et il s'est dit, voilà, les Américains ont fait entre 30 et 160 kilos, mais ça suffisait pour faire la bombe qu'ils ont faite. Hein. Il ne fallait pas la tonne que je croyais nécessaire. Alors, ces détenus allemands, enfermés dans leur manoir, ils étaient là, plus ou moins tout seuls, avec des micros partout. Hein. Et pendant un mois ou deux, ben, on a écouté toutes leurs conversations. Ça a été enregistré, et voilà, on a publié en partie ces affaires. Et alors au début d'ailleurs, il y en a un qui demande à l'autre, est-ce que tu crois qu'il y a des micros partout ici? Alors l'autre dit, non, ils n'ont pas les systèmes de la Gestapo, ici on n'est pas du tout dans le même théâtre. Eh bien oui, il y avait des micros partout et c'est comme ça qu'on a pu avoir leur conversation. Et c'est là qu'on a vu qu'Heisenberg, 2-3 jours après Hiroshima, eh bien, a expliqué à ses confrères pourquoi ils avaient raté. Et alors tous ces physiciens étaient humiliés, non pas seulement comme allemands, sérieusement bien sûr, mais aussi comme scientifiques. Voilà. Alors je voudrais ajouter encore une petite chose sur Turing. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce nom, Turing. En fait, on n'en parle pas depuis très longtemps. Si vous cherchez dans vos livres d'histoire, etc., en 1990, on n'en parlait pas. En 2000, peut-être qu'on commençait à en parler. Alors, pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant? Turing, c'est donc un mathématicien anglais, né en 1912, si je me souviens, décédé par suicide d'ailleurs en 1954. C'est celui-ci dont on voit ici le visage, là, sur la couverture. Par parenthèse, le titre « Les rêveurs lunaires », c'est justement une expression de Rutherford qui avait dit que ceux qui croient qu'on va dégager beaucoup d'énergie avec la fission de l'atome, ce sont des rêveurs lunaires. Et bien voilà. Donc Turing, c'est quelqu'un qu'on considère aujourd'hui comme un des pères de l'informatique et des machines informatiques. Pourquoi ? Parce qu'il a travaillé comme mathématicien au projet de décrypter les messages secrets que les Allemands s'envoyaient les uns aux autres, surtout les U-boats, les sous-marins, qui étaient occupés à empêcher l'approvisionnement de l'Angleterre et donc forcer le blocus de l'Angleterre. Et donc il y avait toutes sortes de messages codés, bien sûr, qui passaient. Alors le codage, c'est une science qui existe depuis très longtemps, bien sûr, mais elle se raffine, elle se complique, etc. Et donc, instinctivement, les logiciens polonais, qui étaient ceux qui décodaient principalement, bien, ont été submergés par le codage Enigma des Allemands, et il n'y a pas moyen de casser ce code. Et Turing a réussi à le casser. Et comment a-t-il fait? Eh bien, il a fait carrément une machine, comme avec des engrenages, etc. Et voilà, toutes les 6 fois, on repasse à l'autre fois, etc. On mélange l'aide de telle et telle manière, mais c'était vraiment une machine comme un grand cadran d'horloge, où on essayait toutes les combinaisons à une vitesse extrêmement grande. Parce que, d'une certaine manière, il n'avait pas plus d'intuition qu'un autre, il avait mis tout en algorithme, et donc on essayait toutes les possibilités, jusqu'à ce qu'il y en a une qui apparaisse plus ou moins bonne. Alors à partir de là, on essayait de la perfectionner, etc. Alors voilà, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui a évidemment eu beaucoup d'importance dans la guerre à cause de cela, mais je pense qu'il n'a pas été découvert si rapidement parce que il a eu des ennuis avec la justice anglaise. Et pourquoi a-t-il eu ces ennuis? Parce qu'il était homosexuel et qu'à cette époque-là, dans les années 50 et tout, c'était un délit en Angleterre, comme d'ailleurs sans doute dans beaucoup d'autres pays, et que carrément, eh bien, on emprisonnait des gens qui avaient des délits de ce type-là. Et même, on les soumettait à des traitements thérapeutiques, chimiques, pour les empêcher d'avoir des pulsions, etc. Et donc, c'est assez curieux comment l'État britannique a considéré que ce héros de la guerre, peut-on dire, un héros en tout cas intellectuel, eh bien, une fois qu'il était dans des pulsions de ce type-là, eh bien, il était considéré comme un délinquant ordinaire, soumis au même traitement, même condamnation, et je crois que c'est pour ça qu'on n'a jamais parlé de lui avant quelque temps. C'est sans doute les lobbies homosexuels qui ont été recherchés, ce héros de guerre, en effet, pour montrer à quel point il était admirable dans tout ce qu'il avait fait pour sa nation. Alors voilà, je crois qu'en vous racontant cela, c'est évidemment de l'histoire, bon, d'accord, mais il y a plusieurs questions qui peuvent se poser. Nous voyons bien sûr là l'histoire de la science, hein, qui finit par découvrir quelque chose de très important. Mais vous voyez qu'il y a des facteurs extrêmement irrationnels qui interviennent ici. Nous sommes dans la science, bien sûr, avec des gens très intelligents, et en même temps, il y a des facteurs complètement irrationnels. À commencer, bien sûr, par la guerre, hein, la guerre, le nazisme, hein, toutes les actions politiques, toute la question de l'antisémitisme. En fait, d'une certaine manière, les nazis, en pourchassant les juifs, ben, se séparaient eux-mêmes d'un potentiel intellectuel très important. Mais ça ne fait rien, il fallait s'en débarrasser. Hein. Einstein, en 1933, à Berlin, était injurié dans la rue. Il était injurié par n'importe qui, dans la rue, alors que tout le monde savait qu'il était une des gloires de l'université de Berlin, et un prix Nobel, etc. Il se faisait injurier. Hein. Voilà. Donc des éléments extrêmement irrationnels qui interviennent ici. Tous ceux qui passent hein, aux États-Unis parce qu'ils sont juifs, parce que leur épouse est juive, etc. Et une fois qu'ils travaillent pour les États-Unis, c'est un peu la même chose. Si Lart était un juif, instantanément, il a été interdit de recherche nucléaire par le gouvernement. Interdit de recherche nucléaire. Parce qu'on disait, la Hongrie, c'est quand même pas si loin que de la Russie, etc. Attention, hein, qu'est-ce qu'il va faire et tout. Oppenheimer aussi a été pendant un certain temps interdit de recherche nucléaire. Einstein était soupçonné d'opinion communiste, parce qu'il n'était pas assez capitaliste sans doute, hein, et parce qu'il n'était pas assez raciste vis-à-vis des Noirs américains, eh bien lui aussi on le soupçonnait. La même chose avec Turing, hein, je vous en ai dit un mot, voilà hein, l'attitude qu'on a vis-à-vis d'un scientifique. La question de la publication, Joliot en France a publié ses résultats. Szilard a empêché Fermi de publier ses résultats. Qu'est-ce qu'il faut faire? On publie ou on ne publie pas? Qu'est-ce que c'est la science? C'est partager son savoir ou c'est le garder en vue d'eux? Tout ça, c'est des questions de politique, finalement. Le savoir n'est pas un savoir pur, hein, c'est un savoir soumis à d'autres motivations. Le 2 mai, comme je vous ai dit, hein, 6 jours avant la capitulation de l'Allemagne, von Braun s'est rendu aux Américains. Et puis, comme vous savez, il a fait une carrière, hein, pas tout de suite, hein, on s'est aussi un peu méfié de lui. Il a fait une carrière dans l'aérospatiale et il a été finalement, mais après quelques échecs de fusées, hein, parce qu'on n'avait pas réussi à faire marcher les fusées, alors finalement on a dit peut-être que von Braun les fera marcher. Et en effet, il les a fait marcher mieux que ses prédécesseurs. Mais quand même, on se méfiait de lui. Et voilà, c'est un personnage aussi controversé, hein, parce que lui aussi a été nazi et pro-nazi et inscrit au parti très rapidement, mais aussi en vue de faire des exploits, je dirais, technologiques et scientifiques. Voilà, on voit donc qu'il y a beaucoup de choses tout à fait irrationnelles qui se mêlent au savoir et au partage du savoir, et je crois que c'est là que finalement il faut un jour entrer dans une espèce de philosophie politique, hein, ou philosophie de l'histoire, pour juger de ce qu'est la science, hein, ou pour juger, en tout cas, de ce qu'on va faire avec la science. Et c'est là que je tourne la page et je vous propose une réflexion sur la triple historicité de Fessard et de Ricoeur. Gaston Fessard, c'est un jésuite français, qui d'ailleurs aussi a eu forte affaire avec les Allemands, hein, parce qu'il écrivait contre le gouvernement de Vichy, etc. Et qui distingue dans l'histoire, au fond, trois niveaux. Il y a trois niveaux d'histoire. Il y a l'histoire naturelle, l'histoire humaine et l'histoire surnaturelle. Alors c'est la même histoire. Hein. C'est la même histoire. Mais ce sont trois niveaux à l'intérieur de l'histoire. Alors, il fait des schémas. Alors, ça, c'est le schéma du temps. Ça, c'est alpha, c'est le début de l'histoire. Ça, c'est oméga, c'est la fin de l'histoire. Hein? Alors, l'histoire naturelle, c'est quoi? L'histoire naturelle, c'est l'histoire de tout l'univers sensible. Depuis le Big Bang, hein, jusqu'à la fin. Pas que ce sera la fin, mais voilà, ça c'est l'histoire naturelle. L'histoire des éléments du monde. Les atomes, les galaxies, etc. Bon, l'histoire naturelle. Tout appartient à cette histoire naturelle, à cet univers sensible, y compris l'homme lui-même, qui dépend d'ailleurs hein, de cette histoire naturelle, en ce sens qu'il mange, qu'il boit, qu'il, etc. Cette histoire naturelle est une histoire où le temps s'écoule, bien sûr, mais il n'y a personne pour le mesurer. Il n'y a personne pour le mesurer. Nous mesurons le temps. Nous, comme êtres humains, nous mesurons le temps. Et nous disons, ben voilà, hein, moi je suis né en telle année, hein, ici, et puis un jour je mourrai, bon, il y aura ça, d'accord. Je mesure le temps, nous mesurons le temps. L'histoire humaine est mesurée par un avant et un après. Hein. C'est l'être humain qui dit, ici, je me suis décidé à faire quelque chose, et ensuite je l'ai réalisé. Il y a une décision de liberté. Hein. J'indique liberté comme ceci. L'histoire humaine, elle s'inscrit à l'intérieur de l'histoire naturelle. Elle est une portion de l'histoire naturelle. Elle est mesurée parce que nous avons une conscience du temps. Et cette conscience du temps est marquée principalement par le fait que nous sommes des êtres qui devons agir volontairement. Et que donc nous prenons une décision, il y a un avant de la décision, un après de la décision, un avant de telle histoire, d'un parent qui est mort, un après, etc. Et il y a toute une perlaboration, je dirais, de ce qu'il y a avant, après. Mais ça c'est pour l'être humain, parce que, je dirais, depuis le Big Bang ici jusqu'ici, tout ce temps est un temps qui n'existait pour personne. Est-ce que c'était un temps où nous l'entendons? Tout passait dans de cause à effet. Mais où était la cause, où était l'effet? Ça passait l'un dans l'autre de manière complètement homogène, sans distinction. Il n'y avait pas des choses plus importantes que d'autres. Parce que pour dire qu'il y a quelque chose d'important, il faut une conscience qui juge que c'est important ou pas. Donc voilà, ça c'est l'histoire humaine qui est constituée par des actes et des œuvres de liberté humaine. Alors ce sera encore un peu plus développé par Ricoeur en dessous. Et il y a l'histoire surnaturelle. Donc l'histoire naturelle, c'est tout ceci, cette ligne qui va de l'alpha à l'oméga. L'histoire humaine, c'est une portion pour chaque individu, mais aussi pour un peuple. Parce que la liberté au singulier, c'est la mienne. Les libertés au pluriel, c'est une nation, c'est un peuple, c'est un siècle, etc. L'histoire surnaturelle, c'est l'interaction de l'homme et de Dieu, ou des dieux, en tant qu'elle manifeste ou révèle le sens de l'histoire humaine universelle et corrélativement de l'histoire surnaturelle. La croyance en une telle interaction entre le surnaturel, les dieux, Dieu, notre Dieu, n'est pas spécifique de l'homme qui se dit religieux. Donc, on peut mettre son histoire humaine sur l'histoire naturelle, mais instinctivement, l'homme s'interroge sur « Oui, mais qu'est-ce que c'est tout ? Qu'est-ce que c'est le tout ? Est-ce qu'il y a un sens à cela ?» Et c'est ce que Fessard appelle l'histoire surnaturelle. Pour lui, un marxiste a aussi une histoire surnaturelle. C'est le grand soir, c'est l'idéal de ceci, de cela. Donc, toute société, toute civilisation a son histoire, hein, sa mythologie, son idéologie ou sa religion. Bon, alors il faut évaluer lesquelles sont plus vraies ou moins vraies que les autres dans le contexte où on est. Mais au fond, c'est ce qui donne la vision, qui donne le sens à tout. C'est l'histoire surnaturelle. Ricoeur nous aide, à mon avis, à préciser l'histoire humaine en la divisant elle-même en trois. Il y a une part de l'histoire humaine qui est cumulative, qui avance en additionnant des progrès qui sont irréversibles, ou à peu près. C'est l'histoire de l'outillage et du savoir scientifique, qui est aussi une sorte d'outillage intellectuel. Voilà, quand on a découvert quelque chose, qu'on apprend, eh bien, on enseigne aux autres, etc. Et même si on meurt, ben ça reste dans des livres, et voilà, et on continue. Et si on a découvert l'atome, ben normalement, on ne va pas l'oublier. On ne va pas l'oublier. C'est là. Et là, c'est cumulatif. C'est évidemment une part de l'histoire humaine très importante. Les civilisations se construisent sur un savoir cumulatif, mais qui est neutre, qui est objectif, et qui est l'objet des sciences dures, physiques, des sciences de la nature.
l'histoire de l'outillage du savoir scientifique. Mais il y a une autre strate de l'histoire humaine qui est celle qui la lie comme l'histoire des libertés au public, au pluriel. L'histoire de la politique, l'histoire des événements, l'histoire de la guerre et de la paix. L'histoire humaine qui se lie comme un drame où il y a des décisions que l'on prend, pas seulement au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Des décisions à prendre avec des crises, des croissances, des régressions, des décadences. Alors là, est-ce qu'il y a progrès ? En un sens, oui, en un sens, non. Chaque génération doit reprendre les bonnes décisions. Lorsque on a découvert l'atome, on ne peut pas, par un geste de la liberté, dire « on va découvrir autre chose que l'atome ». Non, il est là. Mais lorsque un pays a fonctionné d'une manière politique comme ceci, sous un régime, la génération suivante peut choisir un autre régime. On peut défaire et refaire sans cesse. Est-ce qu'il y a là un progrès ou une décadence ? C'est à voir dans chacun des cas. De même que chaque liberté personnelle, c'est pas parce que mes parents ont été libres, ont été chrétiens, ont été des saints, que moi, automatiquement, j'hérite de tout cela. Je dois choisir moi-même. Comme on dit, on n'est pas chrétien par naissance, on est chrétien par choix. Bien sûr, on peut être baptisé, etc., mais instantanément, on doit choisir. Chaque être humain doit refaire ses décisions. Chaque génération aussi doit reprendre ses décisions. Il n'y a jamais rien qui est acquis une fois pour toutes. Et ça, c'est la strate humaine de l'ambiguïté, de l'ambivalence. Alors, il y a tout un savoir philosophique, il y a toute une morale, toute une législation qui intègre des choses à l'intérieur de cette histoire. Mais on peut faire et défaire. On peut revenir en arrière. On peut revoter des lois injustes après avoir été dans un grand progrès politique ou humaniste, etc. Cette même histoire humaine, pleine d'ambiguïté, la politique c'est le lieu de l'ambiguïté, c'est le lieu des décisions, mais tout est ambigu, pas dans le sens de mauvais, mais ambivalent. Ça peut être bon, ça peut être mauvais. Il faut voir dans quel sens on va faire pencher la balance et de manière successive, de manière à ce que ça parte dans le bon sens. Même dans cette histoire pleine d'ambiguïté, il y a aussi comme une espérance que les efforts de la liberté valent la peine, que la lutte est promise à une réussite. Ça, c'est Ricoeur qui parle. C'est la troisième composante de la liberté humaine. Il y a une espérance. Ce niveau prépare le niveau de l'histoire surnaturelle de Fessard, me semble-t-il. Moi, je me suis déjà souvent posé la question, comment se fait-il que des peuples continuent à vouloir vivre ? Sous les bombes, sous les persécutions, sous les catastrophes, etc., tout le monde veut continuer à vivre. Il n'y a rien à faire. Bon, mais il y en a bien sûr quelques-uns qui lâchent, qui se suicident, qui se laissent aller, etc., mais grosso modo, tout le monde veut vivre. Il y a un très beau sermon de Eckhart qui dit « La vie est misérable ». Nous ne sommes rien, nous souffrons, mais nous voulons vivre. Aussi misérables soyons-nous, nous voulons vivre. Serions-nous même encore plus misérables, nous continuerons à vouloir vivre. C'est un très beau sermon qui explique cela. C'est assez impressionnant, il le dit beaucoup mieux que moi, évidemment. On veut vivre. La vie, c'est vouloir vivre. Eh bien, voilà, le progrès humain est cumulatif, pour une part. Il est ambivalent et toujours à rechoisir pour une autre part, et pourtant il est quand même orienté vers une espèce d'espérance dans les tripes, je dirais, que l'on veut continuer à vivre, et peut-être que c'est une sorte de préparation à cette réflexion sur l'histoire naturelle dont parle Fessard, qui est la donation d'un sens à tout ce qui est vécu. Voilà, science et progrès moral de l'humanité, je crois que j'ai à peu près dit ce que je voulais dire. Je crois que c'est une question qu'on se pose souvent. Est-ce que l'humanité progresse ? Eh bien, oui et non, elle progresse bien sûr. Elle progresse moralement ? Je crois que oui, au sens où quand même, il y a de plus en plus de réflexions qui raffinent la question de de la personne, des droits, etc. Mais encore faut-il appliquer tout cela. On ne peut pas évidemment vivre aujourd'hui comme s'il n'y avait pas eu la Révolution française, comme s'il n'y avait pas eu, pour les chrétiens, le Concile Vatican II. Tout ça nous a fait prendre conscience d'une série de choses. Encore faut-il les mettre en pratique. Alors, un progrès moral automatique et cumulatif, non. Je crois que ça, il n'y en a pas. Et c'est ça que nous devons, à titre individuel, dans cette histoire humaine, toujours exercer notre liberté, et aussi, bien sûr, à titre collectif, à travers la politique. La politique, c'est quoi? Eh bien, la politique, c'est sans doute l'art de rassembler les autres autour d'un projet du groupe. L'humanité ne peut pas vivre sans se mettre d'accord sur certains projets. Eh bien, certains parmi nous se sentent l'âme d'un chef. Ils disent, moi je sais ce qu'il faut faire, voilà, chacun peut faire ce qu'il veut, mais moi je propose que tout le monde fasse cela. Et heureusement qu'il y en a, qui ont cette âme de leader, de manière à proposer une voie, une direction. Et donc il faut proposer un projet, un programme. Mais évidemment, c'est la loi de McLuhan, plus l'information est complexe, plus elle est reçue par un petit nombre d'auditeurs. Plus l'information est simple, même simpliste, plus tout le monde comprendra. Donc voilà, pour rassembler les gens, parce qu'avant de faire le programme, il faut d'abord les rassembler autour de ce programme. Et comment rassemble-t-on les gens autour d'un programme? Eh bien, en leur faisant tous dire « oui, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, mais c'est quoi ça ?» Eh bien, c'est un slogan qui d'habitude est assez simple, et d'habitude mobilise, oui, bien sûr, la raison un petit peu, mais surtout les passions. Les passions. C'est certain que parler à la raison des gens, c'est leur demander un petit effort. Vous vous souvenez de Houdet, Houdet, le psychologue là, dont j'ai parlé la fois passée. L'homme réagit d'habitude, pas de manière rationnelle, mais de manière rapide, par les heuristiques. Il a des schémas bien faits, hop, tout de suite il dit « c'est bon, pas bon, oui c'est bon ». Il n'a pas réfléchi. Mais lorsque le système inhibiteur, lui dit « attention, il faut un peu réfléchir davantage », on passe à l'algorithme. Et on voit bien que ce sont, paraît-il, des régions du cerveau différentes qui travaillent. Ben, d'habitude en politique, probablement qu'on ne travaille pas beaucoup avec le préfrontal, on travaille beaucoup avec l'occipital. Ça veut dire avec les raisonnements courts, rapides, et simple. Voilà. Voilà, le politique, selon Ricoeur, désigne l'ensemble des relations des hommes à l'occasion du pouvoir. En politique, la question du pouvoir est essentielle, évidemment. Le pouvoir, être le leader qui va imprimer une direction à un groupe. La conquête du pouvoir, c'est là peut-être que les fake news agissent, l'exercice du pouvoir, et la conservation du pouvoir, parce que comme par hasard, quand on est au pouvoir, on ne veut pas l'abandonner. C'est comme quand on est en vie, on ne veut pas mourir. Quand on est au pouvoir, on ne veut pas l'abandonner. La conservation du pouvoir. Donc les trois, la conquête, l'exercice et la conservation du pouvoir. Et c'est autour de ce pouvoir, dit Ricoeur, que prolifèrent les passions les plus redoutables, orgueil, haine et peur. Orgueil, haine et peur, cette trilogie sinistre, atteste que là où est la grandeur de l'homme, là aussi sera sa faute. Voilà, donc la prochaine fois, je prendrai, comme je vous ai dit, un peu des réflexions sur la philosophie politique avec Hannah Arendt, qui a écrit notamment après le procès de Eichmann, et aussi après la découverte des papiers du Pentagone sur la guerre de Corée, etc. Donc c'est une philosophe politique. Et puis je présenterai aussi Harari et Sloterdijk rapidement.